En ce mardi 14 novembre, on parle de chiffres avec ses pertes enregistrées l'année dernière par l'OPT. On revient aussi sur cette affaire d'ICE à l'aéroport avant de nous intéresser à des travaux à Punaru et aux Jeux du Pacifique. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
On parle de ces pertes records.
Oui, celles qui ont été enregistrées par l'OPT en 2022 et qui ont été présentées en conseil d'administration de l'Office voilà une quinzaine de jours. Alors le groupe avait déjà perdu près de 320 millions en 2021. Un chiffre préoccupant, il est cette fois franchement plus catastrophique. 2 milliards de francs de résultats négatifs après impôts et malgré les subventions du pays. C'est bien simple, l'établissement public n'avait jamais connu un tel déficit. La question qu'on peut se poser, c'est comment la direction explique ces mauvais résultats, Charlie René?
Eh bien, par une conjonction de facteurs, Valdemar. Le PDG Jean-François Martin, à qui le gouvernement cherche un remplaçant pour la fin d'année, rappelle d'abord que les résultats de 2020 et 2021 avaient été marqués par de nombreuses annulations de projets ou de missions, Covid oblige, ce qui avait reporté certaines dépenses. Avec la fin de la crise sanitaire, l'OPT se retrouve donc au pied de cette grave crise financière, entre autres à cause de sa branche télécom, celle qui historiquement compense les pertes de Falerata ou des services financiers. Cette fois, elle est dans le rouge. La faute, d'après le PDG, aux offres mobiles agressives mises sur la table en milieu d'année dernière pour contrer Vodafone. Une façon de pointer du doigt la responsabilité de l'ancien directeur général Donati, Thomas Lefebvre-Segar, débauché chez le concurrent privé en 2021 et remercié en fin d'année dernière. L'échec de ces offres n'explique pourtant pas tout. La direction du groupe met aussi en avant la baisse des subventions du pays, le poids des plans de départ du personnel, le surcoût énorme, mais pas précisément chiffré, du nouveau système d'information. Enfin, 2022, c'était l'année de la création de la nouvelle branche Marara Paiement. Un lancement qui a son coût, mais qui n'a pas encore rapporté, Valdemar.
Et justement, la direction du groupe compte sur de nouvelles recettes à l'avenir pour remettre l'office à flot. Celle de Marara, celle aussi du contrat passé avec la société OneWeb, qui a installé, on le rappelle, ses antennes à la Papeno. Le plan de départ devrait aussi participer à contraindre les coûts, mais avec une question, est-ce que tout ça va suffire à redresser la barre, Charlie?
Eh bien, difficile à dire, mais Jean-François Martin veut y croire. Le PDG sur le départ insiste sur le fait qu'une importante trésorerie avait été constituée avant le début des ennuis financiers et que l'OPT a de quoi résister pour l'instant en tout cas. Le dirigeant a en outre demandé au pays une subvention de 500 millions de francs supplémentaires pour financer le travail d'équipement télécom dans les zones peu denses. Côté économie, Jean-François Martin veut prolonger le plan de redressement du groupe jusqu'en 2028 et parle de mesures de rigueur plus soutenues à l'avenir, de quoi présager de l'ambiance des négociations des nouvelles conventions d'établissement qui doivent être signées avec les syndicats avant la fin janvier, Valdemar.
Et avant ça, l'actualité de l'office sera chargée. Conseil d'administration qui devra valider le budget 2024, c'est avant décembre. Il faudra aussi valider la continuation du plan de redressement. Et puis il y a bien sûr le processus de sélection du nouveau PDG qui est toujours en cours. L'appel à candidature est clos depuis la fin octobre et un comité de sélection doit être réuni rapidement par le pays.
On revient sur cette prise d'ICE à Tahiti Fa.
Oui, rappelez-vous, un homme a été interpellé à l'aéroport la semaine dernière avec 9,2 kilos de méthamphétamine dans ses bagages. La plus grosse prise de l'année pour les douanes. La drogue était dissimulée dans le double fond de deux valises. C'est ce que nous précise ce matin un communiqué du procureur Solène Bellawar. Alors ce Tahitien de 43 ans, qui n'était jusque-là pas connu pour une quelconque implication dans le trafic de stupéfiants, il revenait d'un court séjour touristique à Los Angeles. Et face aux enquêteurs, il a plaidé l'ignorance en expliquant qu'il n'avait pas connaissance de la cachette dissimulée dans ses valises, des bagages qu'il dit avoir achetés à un inconnu dans la rue pour y ranger ses achats, c'est ce que note le procureur. Eh bien, l'homme défendra cette version devant le tribunal correctionnel où il sera jugé le 11 janvier. En attendant, il a été placé en détention provisoire. Il risque jusqu'à 10 ans de prison pour acquisition, détention, transport et importation de stupéfiants.
Et on s'intéresse désormais à un sondage.
Ah oui, celui qui vient d'être lancé ce mardi par Tahiti Tourisme, une enquête destinée à la population qui pourra donner son ressenti sur le sujet. Alors l'objectif de la démarche, c'est faire participer la population à la mise en place de la stratégie et à l'orientation touristique de demain. Une grande première selon Jean-Marc Mosselin, le directeur général de Tahiti Tourisme.
Aujourd'hui, on n'a aucun élément fiable pour démontrer précisément quel est le sentiment de la population. Donc c'est tout l'intérêt de cette étude, c'est d'avoir à cet instant T l'impression que la population a sur un développement du tourisme en Polynésie et dans chaque île, puisque ce sondage va également poser la question dans son île propre.
Et Tahiti Tourisme souhaiterait réussir à sonder au moins 2000 personnes. Pour y parvenir, l'enquête est disponible en ligne bien sûr, mais elle sera aussi proposée par téléphone et en face à face directement sur le terrain.
Sachant que certains membres de la population n'ont pas nécessairement accès ou ne pratiquent pas toujours Internet, on travaille avec le CETOP, donc les étudiants en tourisme à l'université, qui vont pouvoir faire des interviews en face à face dans les îles et par téléphone auprès de la population des îles éloignées. C'est absolument important, d'autant qu'en fonction des réponses, on pourra ensuite filtrer et savoir quel est le sentiment dans chaque île.
Jean-Marc Mosselin qui répondait à Vaïkiar et Pereire. Alors cette consultation se base sur des standards de questions qui sont applicables à toutes les destinations. Elle pourra donc également servir à comparer la situation locale à celle d'autres pays du Pacifique par exemple. L'enquête, on l'a dit, est déjà disponible en ligne et c'est sur le site de Tahiti Tourisme jusqu'au 29 décembre.
Et on parle de chiffres désormais avec cette accalmie pour le prix de l'alimentaire.
Oui, alors que les prix des transports, des services, de l'énergie, des meubles ou de l'habillement tiraient ces derniers mois l'indice des prix à la consommation à la baisse, eh bien l'ISPF estime qu'il faut remercier les produits alimentaires en octobre pour avoir fait baisser l'indice, moins 0,9% sur un mois, grâce notamment à des baisses de prix sur les produits de la mer et les viandes. L'hôtellerie et la restauration sont aussi enregistrés à la baisse, contrairement à l'habillement ou au transport, mais des prix qui restent tout de même 16% plus élevés qu'au début de la crise inflationniste 2021. Il semble tout de même reprendre des fluctuations plus classiques de mois en mois.
Ouais, à Ponaru, le viaduc se refait une beauté.
Oui, depuis le mois d'octobre, d'importants travaux de remise à niveau ont été entrepris par la direction de l'équipement sur ce pont, on le rappelle, long de 150 mètres qui a eu 20 ans en mars dernier. Alors pas d'inquiétude particulière à avoir, assure-t-on toutefois du côté du pays, où l'on veut rassurer les milliers d'automobilistes qui empruntent régulièrement cet ouvrage. Des échafaudages ont été installés sous la passerelle, mais c'est pour permettre aux ouvriers d'effectuer de petites réparations. Il s'agit là d'une première phase de travaux, la plus simple, puisqu'elle n'affecte pas la circulation dans cette zone noire aux heures de pointe. Le plus gros morceau du chantier est prévu au premier trimestre 2024. Les précisions de Marc Pasquier, il est le chef de l'arrondissement des infrastructures de l'équipement.
On va changer ce qu'on appelle les appareils d'appui, c'est ce qu'il y a sous le pont. Grosso modo, ce sont des appuis qu'on vient changer parce qu'ils sont vieux. Donc voilà, on mène des grosses réparations sur ce viaduc qui a déjà vécu. Donc peinture anti-corrosion, reprise des appareils d'appui, reprise d'assainissement pluvial aussi sur le côté. Donc voilà, on ne change rien du viaduc, on l'entretient et on mène des gros travaux de réparation.
Selon le pays, le levage du pont et sa descente devraient toutefois se faire en période de vacances scolaires, certainement durant celle de février, afin de limiter au mieux la gêne pour les usagers. La manœuvre est prévue sur 2 journées, une période très restreinte durant laquelle la circulation sera totalement interdite sur le viaduc. Coût global de la remise en état de cette passerelle, 210 millions.
Une marche autour de Tahiti contre les violences faites aux femmes.
Oui, cette année, c'est au travers de grands cortèges que le pays veut commémorer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La direction des solidarités organise ainsi du 21 au 23 novembre une marche relais intercommunale tout autour de l'île de Tahiti pour symboliser un front uni contre ce fléau. Alors les deux cortèges doivent partir le mardi 21 de Taravao en empruntant les deux côtes de Tahiti. Première étape à Faone côté est et à Tevaiuta côté ouest le soir même avant de rejoindre le lendemain Arue et Punaouia. Jeudi 23, après un nouveau départ simultané des deux côtés de Papeete, les marcheuses et marcheurs se retrouveront à l'Assemblée pour une journée de conférences, de stands d'information et d'ateliers bien-être. Il sera aussi procédé à la lecture de doléances recueillies tout au long du parcours. A noter toujours dans le cadre de cette journée une projection organisée par le Conseil des femmes, celle du film Le Consentement, c'est au Majestic. Le 23 novembre également, à 18h, l'entrée est à 2000 francs au profit du foyer Puotero.
Et on termine par du sport avec les objectifs de la sélection tahitienne pour les Jeux du Pacifique.
Oui, la première partie des 291 athlètes qui représentent le Fenua aux îles Salomon s'envole tôt demain matin. Direction Fidji pour une escale où la délégation sera ensuite divisée en deux vols vers Honiara, la capitale des Salomon. Ces différents vols qui représentent le plus gros du budget du COPF cette année, 126 millions sur les 160 obtenus pour les Jeux. Alors la cérémonie d'ouverture de son côté est programmée au 19 novembre dans la capitale Salomon. C'est donc samedi à Tahiti et nos porte-drapeaux mèneront une délégation qui s'est préparée pour ce défilé en peaufinant notamment son haka. On écoute le président du COPF, Louis Provost.
Alors on a fait des regroupements, mais plus des regroupements de cohésion. On a organisé des samedis après-midi sur des disciplines à faire découvrir aux autres athlètes pour qu'ils se connaissent mieux, qu'ils sachent un peu qu'est-ce que c'est. En disant peut-être, attends, c'est super là, on va aller les soutenir quand ils en ont la possibilité. On a fait des rassemblements également pour mettre en place le haka. Sur deux réunions qu'on a faites. Ensuite, à charge pour chacun dans sa fédération de la mettre en œuvre. Et donc, je pense que sur place, on va effectivement rassembler tout ce beau monde pour bien coordonner la chose.
Alors au total, les Tahitiens sont inscrits dans 23 disciplines, elles concernent 20 de nos fédérations locales. Et pas question de faire du tourisme une fois posé le pied au Salomon, puisqu'avant même le défilé des 22 délégations, de nombreuses commissions techniques sont prévues et certains tournois commencent dès le 17 novembre, jeudi à Tahiti, avec le tennis, le football ou encore le volleyball. L'idée est de faire bien mieux qu'il y a 4 ans quand Tahiti était revenu de Samoa avec 35 médailles d'or et la 4e place au classement des médailles.
Dans le plan Ambition 2027 que l'on a mis en route il y a déjà cela 2 ans, hein. Un peu plus même. Effectivement, l'objectif, c'était à chaque jeu d'augmenter la dotation. Hein. Nous avions prévu qu'au Niara, on puisse atteindre les 55 médailles d'or. C'est sûr qu'avec la préparation qu'on a pu avoir et donc le soutien financier que l'on n'a pas eu, je sens quand même que les gars, les athlètes ont quand même, et les entraîneurs, les coachs, tout ça, les présidents, ont mis de la hargne à vouloir quand même malgré tout réussir et se battre comme on doit se battre. Donc je pense que si on n'atteint pas les 55 médailles d'or, on ne sera pas très, très loin quand même.
Les premières opportunités de podium, ce sera dès dimanche avec des finales, c'est sur certaines distances de natation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actualité locale avec votre flash de la rédaction, c'est à 16h.
Merci beaucoup Valdemar.